Bonsoir. Alors, le cours de ce soir est en fait la fusion de deux cours qui étaient programmés initialement, l'un sur les États-Unis et l'un sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Bon, c'est une fusion par la force des choses, mais elle n'est pas si anodine puisque les chronologies sont les mêmes, l'entre-deux-guerres. Et on va voir comment, dans ce contexte historique particulier, eh bien, l'art s'en sort et parvient à figurer, voire à transfigurer le réel. Alors, je voulais commencer cette séance par l'Allemagne et évoquer en quelques mots donc le contexte de l'après-guerre. Un contexte difficile. La Première Guerre mondiale a été un conflit brutal, total, marqué par le chaos le plus total. C'est 10 millions de morts, hein. C'est un conflit d'abord européen, puis mondial, qui va marquer profondément les générations. Ça va engendrer notamment au niveau politique, et on va le voir aujourd'hui, une brutalisation des comportements qui caractérise la vie d'après-guerre. Alors pour l'Allemagne, les conséquences de cette Première Guerre mondiale sont catastrophiques. C'est une double humiliation. L'Allemagne est défaite, le traité de Versailles lui est imposé par les puissances victorieuses, et c'est un traité extrêmement humiliant, le montant des réparations est énorme. C'est la France notamment qui se montre très ailée, qui n'hésite pas notamment à occuper la Ruhr, qui est la grande région industrielle de l'Allemagne, pour obtenir de façon certaine des paiements. Donc l'Allemagne vit très très mal cette défaite, elle est humiliée, et du coup elle peine à se ressaisir et à se reconstruire. Au lendemain de la première guerre mondiale, une république se met en place en Allemagne, c'est la République de Weimar, et cette République de Weimar n'est pas une république très populaire. Elle n'est pas très populaire parce qu'elle se construit sur la défaite, donc une partie des nationalistes sont par essence contre cette république naissante, et elle se construit également sur un épisode dramatique qui se passe en 1919, c'est l'écrasement dans le sang de la révolution spartakiste. Alors la révolution spartakiste, elle démarre en 1919, elle a pour leader Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, j'ai essayé de le faire à l'allemande mais c'est pas très facile, et ces deux leaders de la révolution spartakiste vont être torturés, vont être assassinés, et la population, qu'elle soit de gauche comme de droite, va être très marquée, voire traumatisée par cet assassinat de ces deux leaders communistes. L'Allemagne connaît un certain nombre de crises économiques, et ce marasme économique va profiter aux partis extrémistes de gauche comme de droite. Et en l'occurrence, c'est à partir des années 30, Hitler qui parvient au pouvoir et qui va connaître une montée en puissance en fédérant les frustrations des masses. Donc on est clairement dans un contexte de crise, crise économique, avec l'immédiat après-guerre, avec la crise de 29, la crise bancaire, la crise économique qui se passe aux États-Unis mais qui va avoir des répercussions en Europe et notamment en Allemagne. On est dans une crise morale également puisque la Première Guerre mondiale a sérieusement entamé l'espoir dans le progrès et dans l'humanité. Et puis on est face à une crise sociale qui découle tout logiquement de la crise économique. Paradoxalement, malgré donc un tableau pour le moins négatif et pessimiste, la création artistique est extrêmement vivace en Allemagne à cette époque. Et le but de cette séance aujourd'hui, c'est de vous montrer les expressions artistiques qui dominent cette scène allemande. Alors on va évoquer dans le désordre la nouvelle objectivité, l'expressionnisme, Dada et aussi un mouvement de grande ampleur qui s'appelle le Bauhaus. Alors je voulais commencer ce panorama par l'expressionnisme. L'expressionnisme, c'est un mouvement qui domine la scène artistique bien avant la Première Guerre mondiale, en fait. Et si je parle de ce mouvement aujourd'hui, c'est parce qu'il va vivoter après la Première Guerre mondiale, et surtout, c'est un mouvement d'une telle ampleur qui va totalement bouleverser les codes esthétiques de l'époque, et un certain nombre d'artistes de l'après-guerre vont s'inscrire en réaction à l'expressionnisme. Donc il est important de passer par cette étape-là et de vous montrer quelques-unes de ses œuvres. L'expressionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui se caractérise par la part très active, presque fébrile, de l'artiste dans l'élaboration de ses œuvres. Des œuvres qui sont dessinées avec fougue, avec vigueur, qui sont saturées de couleurs. L'expressionnisme, c'est véritablement la libération de la couleur. On fait table rase du passé et on veut que l'artiste s'imprègne totalement, viscéralement, dans les œuvres d'art. Alors, un bon exemple de l'expressionnisme, c'est Ernst Ludwig Kirchner, qui est l'un des fondateurs du groupe Die Brücke. Le groupe Die Brücke, le pont en allemand, c'est un groupe qui est créé en 1905 à Dresde par quatre artistes. Kirchner donc, mais également Fritz Blail, Karl Schmidt-Rottluff et Erik Haeckel. Et le but de ces quatre artistes et de tous les suiveurs, c'est de s'affranchir de tout académisme et de prendre une part pleine et entière dans l'élaboration de leurs œuvres. C'est un regroupement d'artistes, hein, un peu comme ce qu'on a vu la semaine dernière avec Pont-Aven, avec Gauguin, Bernard, etc. C'est un regroupement d'artistes qui est fédéré dans cette envie de renouveler, de révolutionner l'art de l'époque. C'est un groupe d'artistes qui malheureusement va être très vite séparé par des dissensions de plus en plus nombreuses. Et en fait, le groupe Die Brücke, qui est donc né en 1905, ne va survivre que quelques années et se disloque en 1913. Ce qui est intéressant aussi de souligner comme point commun, c'est que tous ces artistes-là expressionnistes vont connaître un destin similaire dans la période des années 30 et des années 40. Ils vont être pourchassés par les nazis, leurs œuvres sont considérées comme déviantes et donc elles vont être bannies de l'espace de la cité. Alors Kirchner, qu'on voit ici, c'est le fer de lance de ce groupe expressionniste, il en écrit le manifeste. Et ses œuvres se caractérisent par des couleurs vives, des couleurs impétueuses et des figures cernées de traits épais et noirs. Donc on est face à des représentations très, très physiques, très fébriles. Kirchner participe au premier conflit mondial, il en sort traumatisé, et c'est une longue descente aux enfers. Suite à cette première guerre mondiale, il va s'isoler, devenir paranoïaque, n'hésitant pas à antidater ses œuvres pour montrer que c'est lui l'initiateur du mouvement Die Brücke, et il va se suicider peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'expressionnisme, c'est donc un mouvement âpre, un mouvement dur, aussi bien dans la facture que dans les thématiques. Et un bon exemple, ce sont les œuvres de Käthe Kollwitz. Alors Käthe, donc voilà une autre œuvre de Kirchner, pardon, je l'avais virée. Käthe Kollwitz, c'est une artiste qui naît en 1867, qui meurt en 1945, et qui fait tout un travail, aussi bien en sculpture qu'en gravure, sur la misère et la mort. Les travaux de Käthe Kollwitz illustrent bien le désarroi, le désespoir de la population allemande dans l'immédiat après-guerre. C'est une femme qui côtoie de près la misère et la mort puisqu'elle vivait à Berlin dans le quartier ouvrier de Prenzlauer Berg. Donc toutes les visions qu'elle décrit dans ses œuvres, ce sont des visions très réalistes et qui témoignent donc de la situation sociale de l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi sculptrice. Et tous les corps qu'elle dessine sont très denses et très sculpturaux. Alors là, la gravure que je vous présente, bah, c'est un clin d'œil à la situation historique de l'époque. Hein. Je vous parlais de cette insurrection spartakiste et de l'écrasement hein, de cette insurrection avec la mort des deux leaders. Et là, on a une gravure donc qui commémore en fait la mort de Karl Liebknecht. Et on a ici toute la beauté et toute la densité du trait de Käthe Kollwitz. Un trait âpre qui campe une foule digne, désespérée, massée autour de la dépouille de leur leader, unie et malgré la misère, malgré la tristesse, profondément digne et profondément calme. Käthe Kollwitz sera également poursuivie par les nazis, bien qu'au départ, comme elle était le témoin des masses populaires, au départ ils étaient très séduits par son art et ils lui ont fait plusieurs appels du pied qu'elle refusera. Alors les bases de l'expressionnisme sont posées et à contre-courant de l'expressionnisme, eh bien, naît un mouvement qu'on appelle la nouvelle objectivité. Alors c'est un mouvement qui naît un peu par hasard à la suite d'une exposition en 1925 et en fait l'exposition avait été intitulée « Nouvelle objectivité ». Mais en fait il n'y a pas de programme commun, il n'y a pas des thématiques communes. Le nom du groupe se fait donc un peu de façon hasardeuse. Les artistes de la nouvelle objectivité veulent témoigner de la misère qui règne en Allemagne, mais on n'est pas du tout dans l'exagération et dans l'outrance expressionniste, au contraire, avec les artistes de la nouvelle objectivité, on est dans le vérisme. Le trait est net, il est froid, loin des tumultes colorés donc de l'expressionnisme. Ce sont des productions qui, là encore, vont être violemment combattues, censurées par les nazis, qui vont juger cet art dégénéré. Et d'ailleurs, il y aura une exposition dans les années 30, à la fin des années 30, intitulée « Les arts dégénérés ». Et ça vous montre bien l'ambition malsaine des nazis de vouloir taxer ces œuvres d'art de déviantes. Alors, parmi les artistes emblématiques de la nouvelle objectivité, il y a Georges Grosz. Il est né en 1893, il meurt en 1959. Il se nourrit au départ de l'effervescence créatrice qui secoue l'Europe au début du XXe siècle. Donc il se nourrit de l'influence de toutes les avant-gardes européennes. Et puis, à la suite d'un voyage à Berlin et de son installation dans la ville, il va être marqué par la folie, par l'effervescence de Berlin. Et il va avoir un style bien particulier qu'on va découvrir ici dans ce premier tableau, intitulé « La rue », qui est créée en 1915. Alors, on a une scène assez glauque, en fait, hein, c'est une scène de racolage. Ce qui est symptomatique de l'œuvre de cet artiste, ce sont ses architectures déséquilibrées, ses couleurs froides et chaudes, cette espèce de mélange tonique un peu, comment dire, un peu étrange, qui donne à la scène une atmosphère un peu inquiétante. Et l'autre caractéristique de cet artiste, ce sont les personnages qu'il campe, qui sont toujours des personnages un peu grimaçants. Et ça concourt à cette impression d'inquiétante étrangeté, pardon, que l'on ressent quand l'on observe ses œuvres. Alors, je vous disais que cet artiste avait été happé par l'effervescence et par la fébrilité qui règne à Berlin dans l'immédiat après-guerre. Et en voilà un bon exemple dans cette œuvre intitulée « Hommage à Oscar Panizza ». Alors là, on a une scène très, très déséquilibrée. On est dans l'outrance des couleurs. La rue vomit des personnages monstrueux. L'image, elle est fragmentée. Elle est kaléidoscopique. On a vraiment l'impression de chaos, de cacophonie. L'anéantissement est total. Et cet anéantissement, c'est cet hommage à Oscar Panizza, qui était un écrivain qui n'a eu de cesse durant sa vie de s'insurger contre le système et qui va mourir fou. Donc un destin tragique est ici campé dans toute la fébrilité, dans toute l'effervescence d'une scène de foule. Georges Grosz va être mobilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il va être rapidement réformé pour des raisons de santé. Et il fait partie de ces artistes qui vont être anéantis par l'horreur, par l'absurdité de ce conflit. Il y a un mouvement qui naît en Europe suite à ce conflit, c'est le mouvement Dada. J'en parlerai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et Georges Grosz va être l'un des fondateurs du mouvement à Berlin. Et effectivement, un certain nombre de ses œuvres sont marquées par le non-sens, par l'absurdité. Comme cette œuvre-là, qui est un assemblage de peintures, de collages, de photographies. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique des Dada. Et on a ici donc le portrait un peu étonnant, un peu loufoque, de l'oncle Auguste, qui a réellement existé, hein, c'était l'oncle de l'artiste, l'inventeur malheureux. Et on voit dans le portrait, dans cette accumulation d'objets disparates et hétéroclites, eh bien que la folie guette cet inventeur malheureux. Voilà, toujours la cacophonie et la fébrilité de la ville dans cette œuvre peinte en 1916-1917 et intitulée « La grande vide ». On a là encore une cacophonie de couleurs criardes et agressives avec ces rouges et ces bleus qui rendent bien la palpitation, le crépitement de la cohue, de la vie moderne. Les lignes se croisent, on est face à des diagonales en pagaille et on est vraiment dans l'effervescence de la vie urbaine. Alors ça, c'est un tableau qu'il peint en 1926, les piliers de la société et qui montre la pleine conscience de la déliquescence de la société allemande et le peu de confiance que l'artiste a dans cette société. On a une composition assez angoissante, hein. On a des personnages patibulaires et sinistres qui sont échelonnés les uns au-dessus des autres et on a cet arrière-plan assez effrayant avec cet immeuble en feu sur la gauche et avec sur la droite ces soldats agressifs aux mâchoires crispées, les armes à la main. Et ce qui déroute quand on voit cette œuvre inquiétante de prime abord, c'est l'ambiance de farce triste. Parce qu'en effet, les piliers de la société, les personnages qui donnent le nom à l'œuvre, ce sont ces trois personnages au premier plan. On est dans l'absurde, et l'absurde justement culmine avec les couvre-chefs de ces personnages qui personnifient l'Église, qui personnifient l'armée, qui personnifient les intellectuels, et qui sont coiffés d'un pot de chambre, de soldats et d'une crotte fumante. Donc on est totalement dans l'absurdité, une absurdité grinçante qui vise à montrer la façon dont la société se compromet dans l'illusion nazie. Là, on est vraiment face à des piliers débiles et voraces, et ça montre donc le peu de confiance de l'artiste dans cette société nazie qui se met en place petit à petit. Cette virulence du trait, cette inquiétante étrangeté et ce réalisme froid, on le retrouve chez un autre artiste qui s'appelle Autodix. Autodix, né en 1891, il meurt en 1969 et il se forme à Dresde. Il a plusieurs influences. Au départ, il est très proche notamment du futurisme, qui est un mouvement qui naît en Italie en 1909, qui est marqué par la volonté de faire table rase du passé, de chanter la modernité, de chanter la rapidité, la vitesse. Et petit à petit, il va se tourner vers un réalisme plus cru et plus virulent. Et en cela, il est le grand héritier des peintres de la Renaissance allemande. Je pense à Dürer, je pense à Cranach notamment. Alors là encore, le destin d'Autodix va être profondément malmené par la guerre. Et je voulais vous présenter cette œuvre en premier lieu. En fait, c'est une série de gravures qui sont regroupées sous le titre de « La guerre ». Ce sont des travaux qu'il réalise dans les années 20. En 1924 plus précisément, et Dix ici montre toute l'horreur de la guerre. Et ça, c'est accentué par la technique de la gravure qui montre bien la décrépitude des chairs, la décrépitude des os. Et en fait, dans cette série de la guerre, on a toute une succession d'êtres décharnés, fantomatiques, et on est vraiment dans l'horreur la plus crue. Rue de Prague, réalisée en 1920, technique mixte. Peinture, collage, donc on est dans l'influence dadaïste. La rue de Prague, c'était une rue qui était à Dresde, puisque Dix a d'abord travaillé à Dresde. Et on a ici un tableau chaotique et effarant de l'après-guerre, avec ses infirmes qui déambulent comme des pantins cassés. Le salon. Alors toujours un lieu interlope, une scène un peu glauque, là on est dans un bordel avec ces femmes qui attendent le client, ces femmes qui déploient tout l'arsenal de leurs attributs. Et en même temps, on n'est pas dans une scène sordide, parce que ces prostituées sont, malgré le côté glauque de la scène, sont tristes, profondément pensives. Et finalement, passé peut-être la première impression de dégoût, et ben on est dans l'empathie et on est dans la compassion pour ces femmes qui attendent. Les vieux amants. Alors ça, c'est un tableau génial, pas très ragoûtant non plus, je suis d'accord. Les vieux amants, c'est un tableau qui est peint en 1923, et en fait Dix ici, et c'est pourquoi c'est intéressant, conjugue de multiples références iconographiques pour les détourner et pour offrir un portrait de ces vieux amants assez pathétique et assez morbide. On a une première référence à la vanité. La vanité, dans l'histoire de la peinture occidentale, c'est généralement une jeune femme avec un vieillard, souvent qui symbolise la mort. Bon, là, il détourne les codes. La jeune femme se transforme en une vieillarde un peu décatie, un peu avachie, et on a ce personnage qui est également vieux. Donc on a toute cette symbolique de la vieillesse, mais une vieillesse un peu anxiogène, un peu angoissante. Autre référence iconographique, la référence aux figures féminines, souvent mythologiques, qui sont allongées ou du moins assises un peu nonchalamment. Je pense notamment à un tableau comme la Vénus d'Urbino, du Titien, peint au XVIe siècle, ou encore, je l'évoquais la semaine dernière, l'Olympia de Manet. Mais là, on n'est pas du tout face à une vision sensuelle, on est au contraire face à des personnages un peu hagards et un peu fripés. Enfin, dernière référence, les références aux descentes de croix. Et alors là, j'ai choisi, pas par hasard, des œuvres qui ont marqué l'histoire de la peinture occidentale, la descente de croix de Rubens, donc peint en Flandre au XVIIe siècle, et la descente de croix de Rembrandt, peint aux Pays-Bas au XVIIe siècle également. Et on a des motifs, effectivement, qui sautent aux yeux entre ces descentes de croix et entre le portrait des vieux amants. On a la traînée du drap blanc qui contraste avec le fond sombre, et on a le bois de la croix ici, et le bois des montants du lit qu'on voyait tout à l'heure dans le tableau. Voilà, toujours la peinture de la vie berlinoise, et une peinture qui prend une composition, qui a une composition tripartite. Là, on est dans, en fait, c'est un triptyque. Un triptyque, ce sont trois panneaux, en fait. C'est une forme qui a été beaucoup utilisée au Moyen-Âge et à la Renaissance en Allemagne. Donc là aussi, hein, c'est un clin d'œil à la tradition artistique de l'Allemagne. Et on a ici trois panneaux pour vous présenter trois strates de la société berlinoise. Et c'est un tableau d'autant plus fort que les contrastes sont flagrants entre la misère, la tristesse qui peut régner en Allemagne à l'époque. Je pense notamment au panneau de gauche avec ce soldat mutilé qui avance un peu cahotant, et le panneau central qui vous montre une fête, un concert de jazz avec des gens en train de danser dans l'enthousiasme et dans la légèreté. Ça, c'est l'une des œuvres les plus connues de Dix, qu'il réalise à la fin des années 20, en 1928. Autre artiste de la nouvelle objectivité, et je terminerai mon panorama de la nouvelle objectivité ici, c'est Max Beckmann. Alors Max Beckmann, c'est un artiste qui naît en 1884, qui meurt en 1950, et qui va être lui aussi totalement bouleversé par la Première Guerre mondiale. C'est un bouleversement d'autant plus fort que ça va, de façon radicale, bouleverser sa façon de voir et de créer. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, Beckmann va élaborer un nouveau langage plastique et va être le peintre des mondes interlopes et violents, avec des couleurs très froides, très agressives et parfois une facture impétueuse. Donc, clin d'œil un peu à l'expressionnisme. Voilà, l'une des œuvres que je voulais vous montrer, c'est une œuvre intitulée « La nuit », qui a été peinte entre 1918 et 1919. On a un espace clos, élastique, où sont comprimés les personnages, et la scène, quand on la regarde un peu de plus près, est atroce, puisqu'on a trois hommes qui torturent un couple et qui enlèvent leur fille. Donc on est face à une scène extrêmement, extrêmement brutale, extrêmement violente. Toute cette violence, elle est exacerbée par l'utilisation des couleurs, par l'utilisation des formes acérées. On est vraiment dans l'agression, dans la peur et dans la souffrance. Alors cette impression d'espace clos élastique, on la retrouve dans ce portrait de famille, peint en 1920. On a des détails a priori insignifiants, et puis quand on les regarde, ces détails a priori insignifiants, on est inquiet, parce que tout est disproportionné dans l'œuvre de Beckmann. Et un détail au hasard, la plante qu'on voit dans la partie droite au-dessus de cette femme qui lit, elle prend, du fait de ses proportions, une allure inquiétante, et elle prend l'allure d'une araignée gigantesque et vorace. Donc on est toujours, avec Beckmann, face à des œuvres un peu sinistres et un peu anxiogènes. Là encore, hein, Beckmann sera un artiste honni par les nazis, et d'ailleurs il quittera l'Allemagne à la fin des années 30. Alors, à contre-courant de l'expressionnisme, à contre-courant de la nouvelle objectivité, on a Dada. Dada, c'est un mouvement international, je l'ai dit tout à l'heure, qui est propre à toute l'Europe et qui se veut provocateur, iconoclaste, voire nihiliste. C'est une remise en question de l'ordre, c'est une entorse au beau. Les artistes Dada ont été choqués par la vacuité, l'ineptie de la Première Guerre mondiale, et partant de là, ils disent « plus rien n'est respectable ». Et de fait, ils ne vont plus rien respecter. À l'origine, Dada naît en Suisse, à Zurich, et je vais laisser la parole à l'un des fondateurs du cabaret Voltaire, qui était une sorte de café-théâtre à Zurich, Richard Hülsenbeck. Et Richard Hülsenbeck parle de cette Première Guerre mondiale, et il évoque comment le conflit a été à l'origine de la création du groupe. C'est un extrait au-delà symptomatique du côté irrévérencieux des dadaïstes et des nombreux esclandres qu'ils vont produire. Hein. Ce côté médiatique, ces scandales tonitruants à répétition, c'est vraiment la marque de fabrique des dadaïstes. Richard Hülsenbeck, donc. Aucun de nous n'avait ce genre de courage qui consiste à se faire fusiller pour les idées d'une nation qui, dans le meilleur des cas, n'est qu'un consortium de trafiquants de fourrures et de peaux, et dans le pire, une association de psychopathes. Les politiciens sont partout les mêmes, des têtes creuses et viles. Les soldats ont partout ce même air de brutalité joviale, signe d'une inimitié mortelle pour toute émotion spirituelle. Dès le début, à Zurich, les énergies et les ambitions des collaborateurs du cabaret Voltaire étaient purement artistiques. Nous voulions faire du cabaret Voltaire un centre de l'art le plus nouveau, bien que, de temps à autre, nous n'hésitions pas à dire aux petits bourgeois zurichois, gras et ignorants, que nous les prenions pour des cochons. Chaque fois, cela déclenchait beaucoup de vacarme et les étudiants, la racaille réactionnaire la plus stupide de Suisse, si, vu l'abrutissement national obligatoire, il est encore possible d'appliquer un superlatif à l'abrutissement et à la bêtise d'un groupe particulier, les étudiants donc donnaient grossièrement et rageusement une idée de l'oppression du public, celle-là même qui allait plus tard permettre à Dada d'accomplir sa marche triomphale à travers le monde. Donc le groupe se baptise Dada, un nom un peu étrange, un peu insensé, et de fait, c'est un nom insensé qui a été trouvé totalement par hasard dans le dictionnaire. Les artistes sont séduits par le côté ludique de la prononciation et par la polysémie du mot, quelles que soient les langues. Et là, je laisse la parole à un artiste dadaïste qui s'appelait Hugo Ball et qui écrit « Dada a son origine dans le dictionnaire ». C'est terriblement simple. En français, cela signifie « cheval de bois ». En allemand, « va te faire, au revoir, à la prochaine ». En roumain, « oui, vraiment, vous avez raison, c'est ça, d'accord, vraiment, on s'en occupe, etc. » C'est un mot international. Seulement un mot, et ce mot comme mouvement. C'est simplement terrible. Là, on est en 1916 quand Hugo Ball écrit cela. Donc en Allemagne, la marque de fabrique des dadaïstes, c'est le photomontage. C'est-à-dire un assemblage de coupures de presse, de photographies, de dessins, de peintures. On est dans le n'importe quoi, et ce n'importe quoi vise à montrer l'inanité des ambitions humaines et la stupidité des politiciens de l'époque. Les dadaïstes berlinois, d'ailleurs, sont extrêmement politisés. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique du groupe à Berlin. Et je commence justement mon panorama à Berlin en vous présentant deux artistes, Raoul Haussmann et Anna Hoek, qui ont d'ailleurs été ensemble à une époque. Raoul Haussmann, qu'on voit donc à gauche, né en 1886, meurt en 1971, et l'un des photomontages les plus fameux de cet artiste, c'est le critique d'art. Donc on est dans le photomontage qui assemble des caractères typographiques, des coupures de journaux, il est plus ou moins crayonné, et en fait on a un critique d'art totalement caricatural, il est grimé, Raoul Haussmann lui a adjoint des yeux et une bouche recomposés, crayonnés, qui lui donnent un air halluciné et stupide, et parmi les papiers, on retrouve tous les éléments qui évoquent l'argent, qui évoquent la bourgeoisie, le billet de banque, la chaussure avec la guêtre qui est en train de lui tabrer le front. Le critique d'art est donc un privilégié, éloigné du peuple. C'est une critique assez cinglante de la bourgeoisie de l'époque. Anna Hoek, qui travaille également beaucoup le photomontage, on en a un bon exemple ici, dans cette coupe au couteau de cuisine dadaïste dans la dernière époque culturelle, celle des ventres à bière de l'Allemagne de Weimar. C'est un photomontage réalisé vers 1919 et on est là encore dans la critique de la vie politique contemporaine et on est également dans cet amour de la ville, dans cet amour de Berlin qu'on décèle à travers l'imagerie luxuriante de la ville avec le chaos des engrenages notamment qui suggère la fébrilité et la rapidité. C'est une œuvre cacophonique, c'est une œuvre dense. À Hanovre, on a également un groupement dadaïstes qui est tout entier incarné par cet artiste qui s'appelle Kurt Schwitters, qui va pourtant, paradoxalement, s'éloigner des dadas et qui va créer son propre mouvement, lui aussi insensé, qui s'appelle Merz. Et c'est un mot fortuit, Merz, un mot qui n'a pas de sens et qui peu à peu va devenir signifiant et va recouvrir toutes les possibilités de la création. En quoi ça consiste? Schwitters glane les objets de peu, glane les rebuts, les assemble et va créer des œuvres d'art. Donc cette dimension artistique de destruction-reconstruction, elle est vraiment symptomatique chez cet artiste. Et l'œuvre de toute une vie, qui malheureusement n'existe plus, elle a été détruite en 1943, c'est le Merzbau, donc littéralement la construction Merz. Et c'était une gigantesque composition organique qui proliférait dans son lieu de vie. Et on avait donc tout un assemblage de cavités, de colonnes, de stalactites, de stalagmites. Et chaque grotte ainsi constituée représentait des objets qu'il assemblait ça et là pour devenir des tableaux, entre guillemets. Donc on était vraiment dans un lieu organique, un lieu de vie qui était protéiforme puisqu'il se crée au fur et à mesure des inspirations de Kurt Schwitters. autre foyer dadaïste, Cologne, avec un artiste comme Max Ernst, qui est un artiste prolifique, hein, qui va avoir également une période surréaliste, mais bon, là, c'est pas notre propos. Ernst, il naît en 1891, il meurt en 1976. C'est un artiste cosmopolite, il va avoir la nationalité allemande, américaine, française, et il explique très bien dans ses écrits comment cette Première Guerre mondiale, bah, là encore, a été le déclencheur de sa vocation artistique, une vocation salvatrice. Il a eu besoin de renverser son système de valeurs, comme la Première Guerre mondiale avait renversé le système de valeurs de l'époque. Il écrit « Pour nous à Cologne, en 1919, Dada était avant tout un état d'esprit. Dada était une vague rebelle d'énergie vitale et de rage qui résultait de l'absurdité, de l'immense stupidité de cette guerre imbécile. Nous, les jeunes, revînmes de la guerre dans un état de stupéfaction et notre colère dut trouver un exutoire. Elle s'exprima assez naturellement contre les fondements de la civilisation responsable de la guerre. » Alors la période dadaïste de Ernst se caractérise par des collages très léchés. On n'est pas du tout dans le photomontage et dans ce côté un peu ébauché, propre à Raoul Hausmann par exemple. On est dans quelque chose de très sophistiqué, de très léché. Et en voilà un bon exemple avec ce collage qui n'est pas le plus connu, mais que j'ai choisi arbitrairement parce que je le trouve extrêmement poétique. C'est un collage réalisé en 1920, et intitulé « Au-dessus des nuages, marche la minuit ». Et je vous disais que cette technique du photomontage, chez Ernst, elle était très léchée. On voit ici que toutes les coutures, entre guillemets, sont effacées. On a, du coup, un assemblage qui crée une créature imaginaire, onirique, fait de bobines de fil et de dentelles, et on est dans quelque chose de très aérien, de très serein, et c'est exacerbé par le fait que cette créature étrange marche sur une mer de nuages. Donc on est face à quelque chose de très poétique. L'une des aventures artistiques et intellectuelles les plus fascinantes également va être le Bauhaus, qui a la même durée en fait que la République de Weimar. Il naît en 1918 et ce mouvement du Bauhaus se disloque dans les années 30, en 1933. Au départ, tout se passe à Weimar et puis après l'école va être déménagée dans d'autres villes, à Dessau puis à Berlin. Le terme Bauhaus est l'inversion du terme Hausbau, qui signifie la construction de la maison. Donc là, littéralement, le Bauhaus, c'est la maison de la construction. Construction au sens large, on est dans un projet collectif, utopique, qui veut fédérer toutes les énergies et qui veut réconcilier l'art et l'artisanat. Donc il y a vraiment une dimension très utopique, hein, presque messianique, dans cette colonie d'artistes assemblés dans cette école du Bauhaus. Le terme peut être également rapproché du terme allemand Bauhütte, qui signifie la loge des bâtisseurs des cathédrales au Moyen-Âge, et ça suggère, et c'est délibéré, une communauté d'artisans et d'artistes unis, fédérés, autour d'un même projet. On a la chance d'avoir un manifeste, publié en 1919, qui explicite les buts, les motivations de cette synergie de créateurs, et dans le manifeste, il est écrit, je cite, « Concevons, élaborons et créons en commun la construction nouvelle de l'avenir qui embrassera tout en une forme unique, et que surgissent des mains de milliers de travailleurs s'élançant jusqu'au ciel le symbole de cristal d'une foi nouvelle. » Donc on est vraiment dans cette dimension idéaliste et utopique d'un art qui, quelque part, refonderait la société. Alors, tout se passe, je l'ai dit, à Weimar, qui est une ville qui était préparée quelque part à de telles innovations. Au début, à la fin du 19e, début du 20e, à Weimar, il y a un artiste qui s'appelle Henri van de Velde, qui est un artiste art nouveau, polyvalent, architecte, designer, dessinateur, qui avait réfléchi à Weimar à une réforme de l'enseignement et qui était à la fois un génie créateur, mais également un génie de la com, puisqu'il n'a eu de cesse de médiatiser justement cette volonté de lier l'art et la société. Donc, psychologiquement, intellectuellement, la ville de Weimar, elle était prête à de telles innovations. L'artisan du Bauhaus, c'est Walter Gropius, qui est un architecte qui veut, dès le départ, de façon très ambitieuse, fédérer les artistes et les techniciens. réconcilier l'art et l'industrie, l'art et l'artisanat, et faire entrer littéralement l'art dans la vie. Alors le Bauhaus va être une conjugaison de personnalités diverses avec de vrais personnages. Il y a un artiste notamment que j'évoquerai pas ce soir, mais je vous le dis pour la petite anecdote, qui s'appelait Johannes Itten, qui se baladait crâne rasé en robe de bure et qui, avant chaque cours, demandait à ses étudiants, afin qu'ils se purifient, de faire un certain nombre d'ablutions, de se saupoudrer de cendres. Voilà, on a des personnalités un peu étranges. Ça va à la fois concourir à l'extraordinaire... je trouve plus mon mot... effervescence de l'école, ça va faire une pub, mais en même temps ça va la desservir dans la mesure où très rapidement il va y avoir un certain nombre de politiciens qui vont être contre cette école. La plupart des artistes sont extrêmement engagés politiquement et de fait l'école sera fermée par les nazis dans les années 30. Donc on est vraiment face à un vivier d'artistes subversifs. Et ces artistes donc veulent lier l'art et l'industrie, et veulent offrir l'art au plus grand nombre. Tout doit être pratique, tout doit être standardisable, tout doit être fonctionnel. Le Bauhaus, c'est le fonctionnalisme à l'état pur, c'est-à-dire que chaque objet, chaque espace doit répondre à une fonction bien précise. Un bon exemple, c'est la construction de l'école à Dessau. Donc ça, c'est l'école du Bauhaus à Dessau, dessinée, construite par Walter Gropius, et... on est dans l'archétype du fonctionnalisme étant donné que chaque espace avait une fonction bien précise. Tel espace était pour l'atelier de métallurgie, tel espace était pour l'atelier de peinture, etc., etc. À la fin des années 20, en 1928 plus exactement, Walter Gropius cède la place à l'architecte suisse Hannes Meyer qui va régenter l'école pendant quelques années, qui va être rapidement évincé, notamment parce qu'il est extrêmement politisé, donc il va être contraint de démissionner en 1930, et de 1930 à 1933, c'est l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, je suis pas certaine de la prononciation, qui prend sa succession, et ce jusqu'en 1933, date à laquelle l'école est définitivement fermée à cause de la politique de l'époque, hein, les nazis ne supportant pas une altérité aussi flagrante. Alors, on ne va pas évoquer ici tous les protagonistes de l'école, on va se concentrer sur quelques trajectoires que j'ai choisies là encore de façon totalement arbitraire, mais qui évoquent bien la pluralité de créateurs qui vivent dans cette école. Et je voulais commencer par Laszlo Moholy Nagy, qui est un artiste hongrois né en 1895, mort en 1946, qui part en Allemagne sur l'invitation de Gropius. C'est un autodidacte, il a un parcours totalement atypique. Au départ, c'est un peintre, et puis petit à petit, il s'intéresse à la photographie et va vouloir, dans la photographie, s'intéresser au côté mécanique, au côté objectif. Pour Laszlo Moholy Nagy, le but, c'est de dépersonnaliser l'image. Et donc, il s'efface littéralement derrière l'objet. L'une des photographies que je vous présente ici a été faite en 1929. Elle s'intitule « Jeu »,« Play » en anglais. Et on a effectivement un jeu sur la lumière, puisque le terrain de jeu de ces enfants est zébré de lignes verticales qui font écho à leur silhouette. Et comme l'angle de vue étant plongé, leurs silhouettes paraissent démesurées, paraissent immenses. Je disais tout à l'heure que Laszlo Moholy Nagy était fasciné par l'existence autonome de l'objet. On en a un bon exemple ici, dans cette œuvre intitulée « Sans titre ». C'est une œuvre créée vers 1926, et en fait c'est un photogramme. Alors le photogramme, qu'est-ce que c'est? En fait, sur la surface du papier photo, on pose des objets, et donc ces objets vont laisser des impressions. C'est une sorte de radiographie en fait, le photogramme, mais c'est une radiographie très, très étrange, très onirique, qui se base sur des jeux d'ombre et de lumière. Et c'est vrai que tous les photogrammes de Laszlo Moholy Nagy, il en a fait un paquet, déroute le spectateur parce qu'on ne parvient pas à comprendre quel est le but de la manœuvre et quel est le sujet représenté. Et il n'y a pas de sujet, justement. Le but du jeu, c'est de chanter la toute-puissance de l'objet. Alors, au Bauhaus, on a des photographes et puis on a également des designers. Et en voici une, c'est Marianne Brandt, née en 1893, morte en 1983, qui a réalisé un certain nombre d'objets, comme cette emblématique théière, dans les années 20. Brandt, elle a un parcours atypique, hein, c'était la seule femme de l'atelier de métallurgie du Bauhaus, et elle est entrée dans cet atelier de métallurgie grâce à Laszlo Molinagy, qui était très volontaire et qui a réussi à imposer les femmes dans certains ateliers traditionnellement réservés aux hommes. On est dans la géométrie, on est dans la simplicité des formes, et pourtant, le résultat est percutant, il est sophistiqué. On est face à des matériaux nobles, de l'argent, de l'ébène, et pourtant c'était un objet qui était conçu pour la vie de tous les jours. Donc il y a toujours cette volonté de lier l'art et l'industrie, et d'offrir quelque part à la vie de tous les jours eh bien, un peu de rêve, un peu de poésie, un peu d'art tout simplement. Autre artiste féminine, Gunta Stölz, donc là aussi, je ne suis pas certaine de l'accent. Une artiste née en 1897, morte en 1983. C'est une artiste qui a consigné toutes ses impressions, tout son enthousiasme dans un journal. Et justement, ses écrits sont un témoignage fantastique de l'effervescence qui régnait dans cette école du Bauhaus à l'époque. C'est une artiste qui est très influencée par des peintres comme Klee, comme Kandinsky, et en fait c'est une artiste textile. Donc là on a une esquisse, hein, c'est un projet de textile conservé à New York, et on retrouve, on va le voir par la suite, tout ce travail sur la couleur et sur la ligne qui va être la marque de fabrique d'artistes comme Klee ou comme Kandinsky. Et elle fait ce genre de choses. Voilà, ça c'est un tapis. Voilà, elle assemble des lignes géométriques qui subissent tout un tas de variations, et elle fait un immense travail sur la couleur. Alors, je l'évoquais, Paul Klee, peintre né en 1879 et mort en 1940. C'est un artiste, Paul Klee, polyvalent. C'était un musicien également. Et dans ses œuvres, il lie la peinture et la musique. C'est un artiste, hein, là encore, qui va être violemment combattu par les nazis. Fenêtre et toit, c'est un tableau peint en 1919. Les pans de mur et les toits sont fragmentés, ils se teintent de tons chauds. On a un éparpillement, justement, de tons doux et chaleureux. Paul Klee avait fait un voyage au début du XXe siècle en Tunisie. Et il va être happé par la couleur et la luminosité de la Méditerranée et du Maghreb. Et ça va beaucoup influencer les œuvres des années 10 et des années 20. Alors j'évoquais tout à l'heure le goût pour la musique de Paul Klee. Là on a tout un travail sur la variation. C'est pas un hasard, hein, si j'emploie ce terme, c'est un terme musical, la variation. Et justement, on a une variation colorée de carrés qui donne une allure vibrante à cet édifice, à ce château fort qui palpite sous nos yeux. Autre peintre, mais ce n'est pas ses peintures que je vais aborder ici, c'est Oskar Schlemmer. Oskar Schlemmer, né en 1888, mort en 1943, est un artiste peu connu du grand public, mais une de ses œuvres pourtant peut-être vous évoquera quelque chose. C'était un homme de théâtre aussi, c'était un chorégraphe, et il a créé une création phare qui s'intitulait le ballet triadique. C'est une composition qui l'a beaucoup occupé, puisqu'elle avait été amorcée durant la Première Guerre mondiale, et elle va être finalisée seulement dans les années 20. Et dans ce ballet triadique, on a tout un assemblage de personnages avec des formes géométriques et des personnages qui déambulent de façon très mécanique, très rigide. En fait, c'était des costumes faits de métal, de papier mâché et de ouate, donc c'était volontaire, il fallait entraver quelque part les gestuels, les mouvements des danseurs. Schlemmer, c'est un artiste qui refuse l'émotion, l'expressivité. C'est un des grands chorégraphes abstraits du XXe siècle. Autre peintre, comment ne pas parler de lui, Vassili Kandinsky. Vassili Kandinsky, c'est un peintre, mais c'est aussi un théoricien qui nous a laissé parmi les textes les plus beaux de l'histoire de l'art. C'est un artiste né en 1866, mort en 1944. Un artiste qui a commencé ses recherches à la fin du 19e, début 20e, avec un autre artiste, Franz Marc, qui malheureusement va mourir pendant la guerre. C'est le fondateur du Blaureiter, qui est un des grands mouvements du début du XXe siècle, marqué par le goût pour des couleurs très vives, parfois un peu outrecuidantes. Il va enseigner au Bauhaus à partir de 1922, et en fait, lorsqu'il arrive à Weimar, il est auréolé d'une gloire. Il est très connu pour ses œuvres, pour ses écrits. il est très connu notamment pour son cheminement vers l'abstraction. Au départ, les œuvres de Kandinsky ressemblent à ça. Elles sont très classiques. Là, on a une œuvre intitulée « Le couple à cheval » qui a été peinte entre 1906 et 1907. Donc, c'est tout l'imaginaire des contes russes. Et il y a quand même un travail sur la ligne et un travail notamment sur le rythme avec toutes ces petites touches de lumière qui donnent un côté un peu scintillant, un peu frénétique. Le but du jeu ici pour Kandinsky, c'est de faire affleurer le rythme de la toile. Et donc Kandinsky va faire tout un périple intérieur, tout un cheminement vers l'abstraction. Le but de Kandinsky, c'est de s'affranchir de mimétisme, de s'affranchir du réel pour tendre vers quelque chose d'abstrait et de libérateur. Ce cheminement est le fruit de rencontres, le fruit d'influences diverses. Il va être très influencé notamment par les recherches sur la lumière et la couleur des impressionnistes, de Claude Monet par exemple. Il va être très influencé par toutes les émotions musicales qui se dégagent dans les œuvres d'un artiste comme Richard Wagner. Il va être très influencé par les découvertes scientifiques de l'époque, notamment les découvertes sur la désintégration de l'atome, qui du coup met à mal le côté relatif du réel. Et il va être influencé par un épisode très connu, l'épisode de l'atelier. Kandinsky rentre un jour dans son atelier et il est subjugué par un tableau qui lui saute aux yeux. Il est littéralement happé par la force de ce tableau. Et au bout d'un moment, d'un long moment, il se rend compte que ce tableau, en fait, est posé à l'envers. Donc, finalement, c'est pas l'objet de la représentation qui l'a frappé, qui l'a ému. La représentation, elle ne sert à rien. Ce qui l'a ému, c'est cette débauche de lignes, cette débauche de couleurs. Et de cette anecdote, il se rend compte, finalement, que la compréhensibilité du tableau, je sais pas si ça se dit, enfin bref, le côté compréhensible du tableau est secondaire, il est anecdotique. Ce qui doit dévoiler une beauté, une émotion, c'est cette débauche de lignes et de couleurs. Alors la période du Bauhaus se caractérise par l'utilisation de lignes précises, de formes géométriques disséminées sur le support. Et on en a un bon exemple ici dans ce tableau qui est conservé au Centre Pompidou, qui est peint en 1923. C'est un tableau très simple et très percutant. On a deux diagonales noires qui zèbrent le fond blanc, qui s'affrontent, et autour de ces deux diagonales noires, eh bien, s'agglomèrent des formes géométriques. Et on a une composition extrêmement épurée, extrêmement sombre, des couleurs très vibrantes, très vivantes, et du coup, il y a quelque chose de très percutant qui s'impose à nous. Au début des années 30, je le disais, la situation politique se durcit. Je l'ai dit aussi, les artistes du Bauhaus sont extrêmement politisés et donc finalement c'est vu comme un vivier d'artistes subversifs qu'il faut combattre. Hitler va imposer le nazisme, c'est un système idéologique totalitaire, xénophobe, raciste, qui par définition, comme tout système totalitaire, va refuser toute altérité. Et donc tout logiquement, les nazis vont proscrire ce type de démarche, ce type d'œuvres qui sont jugées non conformes, donc subversifs. Et donc avec l'avènement du régime nazi, toutes les œuvres qu'on a vues, les œuvres expressionnistes, dadaïstes, les œuvres de la nouvelle objectivité, comme les œuvres du Bauhaus, vont être honnies. Elles sont pour les nazis le signe d'un monde impur, d'un monde corrompu, d'un monde malade, et tel est bien le but des expositions d'art dégénéré qui vont voyager en Allemagne à la fin des années 30. Le terme art dégénéré a des consonances politiques, bien sûr, mais il a aussi des consonances extrêmement négatives, extrêmement péjoratives, et ça montre bien qu'on est dans un contexte de crise, puisque le Troisième Reich va être vraiment dans la négation, dans la destruction de toute altérité. On saute l'Atlantique et on va aux États-Unis. Là, je serai un petit peu plus courte, rassurez-vous, on n'est pas là jusqu'à 23 heures. Alors, les États-Unis, de l'immédiat après-guerre, sont marqués par une crise économique majeure. Qu'est-ce qui se passe ? En 1929, il y a le krach boursier. Un krach boursier qui pendait au nez des Américains. Dans les années 20, il y a eu un essor économique qui, à la fin des années 20, s'essouffle petit à petit, alors que paradoxalement, les spéculations vont bon train. Donc, du coup, on arrive à la fin des années 20, une situation complètement absurde où les spéculations battent leur plein et finalement le marché boursier est seulement spéculatif. Patatras, fatalement, c'est l'écrasement de ces spéculations et c'est le krach. Et donc l'effondrement des cours va révéler la vacuité des spéculations boursières, mais ça, c'était pas une trouvaille, et va générer surtout une crise bancaire majeure qui va dégénérer en crise économique et une crise économique mondiale. Cette crise bancaire, cette crise économique, elle va avoir des répercussions très fortes et elle va révéler l'incapacité des politiques à enrayer les réactions en chaîne qui se mettent en branle. Il y a des faillites bancaires, il y a du coup un manque d'épargne disponible pour toutes les familles américaines de l'époque et un pouvoir d'achat qui s'amenuise comme peau de chagrin. Un chiffre, 4 millions de chômeurs en 1930, 12 millions en 1933. Donc la situation économique et sociale en Amérique, à la fin des années 20 ou au début des années 30, est catastrophique. C'est dans ce contexte que grossit le monde de l'errance, on va le voir aujourd'hui à travers le travail de photographe, et aux États-Unis, à cette époque, la précarité est omniprésente, elle est partout visible, dans des habitats de fortune, dans des tentes, dans des wagons, dans des voitures abandonnées. Il y a un écrivain qui a témoigné de cette misère qui touche les populations américaines à l'époque, c'est John Steinbeck, dans Les raisins de la colère, publié en 1939. Et John Steinbeck écrit à propos de toutes les migrations engendrées par la crise bancaire, je le cite, « Sur ces entrefaites arriva la masse des expatriés attirés par le mirage de l'Ouest, du Kansas, de l'Oklahoma, du Texas, du Nouveau-Mexique, du Nevada, de l'Arkansas. Par familles, par tribus entières, ils s'amenèrent, chassés par la poussière, chassés par les tracteurs. Des chartés, des caravanes de sans-logis affamés, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000. Ils déferlaient par-dessus les montagnes, ventres creux, toujours en mouvement, pareils à des fourmis perpétuellement affairées en quête de travail, de quelque chose à faire, de quelque chose à soulever, à pousser, à hisser, à traîner, à piocher, à couper, n'importe quoi. N'importe quel fardeau apporté en échange d'un peu de nourriture. » Avec la remise en cause du modèle américain, quelque part, un mythe s'effondre. Il y a vraiment une crise de confiance dans le modèle américain, et c'est aussi la faillite d'un parti politique, le Parti républicain, et d'ailleurs, de façon tout à fait symptomatique, tous les bidonvilles qui vont se créer ex nihilo vont être surnommés les Hooverville, du nom du président républicain Hoover. Donc c'est dire toute l'amertume de la population. Et il y a un homme qui va changer la donne, qui arrive un peu miraculeusement, c'est Roosevelt. Alors, Roosevelt est élu président des États-Unis en 1932. C'est un homme politique déjà connu pour ses actions. Il a été le gouverneur de l'État de New York et c'est un personnage. Il a été paralysé à la suite de la polio et malgré son infirmité, il va mener une carrière politique exemplaire. C'est un homme qui a un charisme fou, qui a une véritable aura, qui a un dynamisme et un optimisme à toute épreuve et qui va fédérer les Américains derrière une idée géniale, le New Deal. Alors le New Deal, qu'est-ce que c'est? Derrière cette formule toute simple et percutante, c'est l'ambition de remettre les gens au travail et de rendre de nouveau active et cohérente une société qui avait été mise à mal par cette crise bancaire et qui s'étiolait inexorablement. Et alors, parmi les grandes idées du New Deal, il y a cette volonté de sponsoriser l'art. Au-delà, c'est la volonté de promouvoir l'art américain. C'est une façon de singulariser, de célébrer l'identité américaine, de rendre, je l'ai dit, une homogénéité, une cohérence au pays. Et c'est aussi indirectement une promotion de l'œuvre de Roosevelt. Toute cette politique du New Deal, elle sera par la suite critiquée par les contempteurs de Roosevelt et qui ont dénoncé une certaine forme de propagande. Bon, il y a un peu de mauvaise foi parce qu'il a quand même fait des bonnes choses, mais voilà, c'est pas forcément un programme qui a fait l'unanimité à l'époque. Quoi qu'il en soit, l'art pénètre dans tout le pays. L'artiste n'est plus cette entité lointaine et distante, au contraire, il est un citoyen, il est parmi le peuple, il atteste des difficultés qu'éprouve la population à l'époque. Et le New Deal va donner naissance à un art spécifiquement américain, voulu, orchestré par le gouvernement. Ça, c'est totalement inédit. Le gouvernement est une sorte de gigantesque mécène. Donc on est face à un art utilitaire, un art nationaliste. On est dans un territoire géographique, social, économique, historique bien précis. Et finalement, on est dans une forme de peinture d'histoire, c'est-à-dire qu'on va peindre l'histoire des États-Unis, une histoire négative. Il y a des artistes qui vont peindre avec crudité toute la misère et tout le marasme de l'époque, et d'autres artistes qui, à contrario, vont chanter l'Amérique profonde, l'Amérique qui se relève de ses cendres, tel le phénix. Alors moi, je voulais évoquer en grande partie la photographie, et plus précisément la photographie documentaire. C'est un genre qu'on associe spontanément aux États-Unis parce que, effectivement, dans l'Amérique des années 20 et des années 30, eh bien, de nombreux photographes vont être missionnés par le gouvernement pour témoigner du désarroi, de la pauvreté qui touche les populations de l'époque. Et je voulais commencer par l'une des figures majeures du photojournalisme américain, c'est Dorothea Lange, née en 1895 et morte en 1965. C'est une artiste qui, au départ, évolue dans un milieu très favorisé, donc rien ne l'a destinée à la base à fréquenter les populations les plus démunies de l'Amérique. Et en fait, elle va vraiment avoir une prise de conscience avec cette crise économique et elle va aller à la rencontre des populations. Et dans tout le travail de cette artiste, on est vraiment dans l'empathie. Elle cherche à comprendre, elle cherche à être solidaire des populations. Elle va être missionnée par le gouvernement pour un projet bien précis, témoigner des migrations des fermiers américains vers l'ouest du pays. Il va y avoir un grand nombre de migrations de fermiers et de paysans qui fuient la misère. Ils ont été mis à mal évidemment par la crise économique, mais ils ont été aussi mis à mal par toute une série de tempêtes et de sécheresses qui ont dégradé leurs conditions de travail. Alors la première photographie que je voulais vous montrer, c'est le producteur de pois. Donc là on est clairement du côté des puissants, avec ce personnage bedonnant, les mains sur les hanches, l'air altier et satisfait, on est du côté des propriétaires. Je vous montre cette image, c'est pas par hasard, parce que c'est une posture qui contraste avec les images suivantes, avec les corps courbés et tordus des ouvriers. Là, on est clairement dans une critique sous-jacente de l'exploitation de ces ouvriers. Et donc, le pendant de cette image, c'est les cueilleurs de laitue. C'est une photographie qui a été faite en 1935. Ce sont des ouvriers philippins travaillant dans un champ de laitue pour les propriétaires japonais. Propriétaires japonais, États-Unis. En fait, il y avait une grande communauté japonaise aux États-Unis qui va connaître un sort malheureux, puisque suite à Pearl Harbor et suite à l'entrée en guerre des États-Unis, les Japonais vont être pourchassés, internés dans des camps, et la communauté japonaise américaine va être profondément impactée par le second conflit mondial. Mais je m'égare. On revient à cette photographie, et on a justement cette armée de cueilleurs de laitue voûtée, et on a quelque chose de très lourd et de très oppressant dans cette photo. Elle est très basse, tout est bas. On a ce champ de laitue qui mange la majeure partie de l'espace. On a ces ouvriers courbés et on a ce ciel bas qui surplombe la scène. On est vraiment dans une image de l'effort, de la fatigue et de la lassitude. Alors, l'œuvre la plus connue de Lange, c'est La mère migrante, qui a été réalisée en 1936. C'est un cliché très connu qui est, je pense, dans l'écrasante majorité de livres de photographie. C'est un cliché très connu parce que c'est un cliché extrêmement percutant. Là, le cadrage fait qu'on est happé par le regard soucieux et accablé de cette femme qui, malgré tout, regarde au loin, qui, malgré tout, tient bon. Et puis petit à petit, on éparpille le regard et on se rend compte que cette femme, elle est littéralement enchâssée par ses enfants. On voit la tête hirsute de ses deux bambins qui sont en train de se cacher derrière ses épaules et on voit le nourrisson qu'on peine à reconnaître au départ, blotti contre elle. Et on a tout le courage de cette mère qui est accablée par les problèmes, qui vit dans un camp de fortune au fin fond de la Californie et qui malgré tout tient bon parce qu'elle est mère de famille et qu'elle n'a pas d'autre choix que de tenir bon. Ça, c'est pas un des clichés les plus connus de Dorothea Lange, mais c'est un cliché des plus percutants à mon sens. Ancienne esclave à la mémoire longue, on a cette femme qui a une présence hallucinante, et cette présence hallucinante, cette aura qui se dégage de cette ancienne esclave tient à la couleur de sa peau noire et à cette espèce de capuchon blanc qui contraste et qui lui confère une présence presque théâtrale. On est presque face à une icône, on est subjugué par le regard pugnace et volontaire de cette vieille femme. Autre photographe, Margaret Bourke-White, née en 1904, morte en 1971, qui est une des figures du photojournalisme. Elle a travaillé pour le grand magazine américain de l'époque, Life. Elle a travaillé dans le monde entier. C'était vraiment une femme péchue. Pardonnez-moi l'expression, mais aussi couillue. C'est un des rares photographes à avoir couvert la Seconde Guerre mondiale en URSS, il fallait le faire, elle l'a fait, et Dieu sait qu'ils n'étaient pas nombreux à couvrir le conflit en URSS, elle l'a fait. Et Bourke-White a réalisé un grand nombre de clichés sur l'industrie, sur l'architecture, et on est dans ces clichés, dans quelque chose de très théâtral, de très onirique, de très inquiétant. Chez cet artiste, les édifices, les mécanismes prennent une dimension épique, presque mythique. Ça, c'est une des œuvres les plus connues, intitulée « Fort Perk Dam ». On croirait les tours crénelées d'une bâtisse médiévale, on croirait les mines patibulaires de chevaliers médiévaux, bah pas du tout. C'est un barrage. C'est un barrage édifié dans le Montana, et c'est une photo qui est emblématique de cet artiste, parce qu'on a un cadrage très serré, qui provoque une perte de repère, on ne sait plus quelles sont les proportions, et le sens même de l'image est troublant. Elle donne du mystère, elle donne une aura à quelque chose qui, à la base, en est totalement dépourvu, puisqu'il s'agit d'une construction industrielle qui n'est pas forcément, à la base, très propice à l'imaginaire. Ce style dramatique s'impose aussi dans la photographie des paysans. Elle arpente les États-Unis, donc là elle est dans l'Arkansas, et elle photographie ici deux vieilles femmes en 1936, deux vieilles femmes le regard perdu au loin, deux vieilles femmes inaccessibles du coup, et qui pourtant paradoxalement sont fermement ancrées dans leur environnement, les pieds symétriquement plaqués au sol pour l'une, les mains et les bras enroulés autour de la chaise pour l'autre. Il y a une espèce de matérialité qui se dégage dans cette œuvre et dans ces deux femmes, toutes fragiles et pourtant extrêmement consistantes. Voilà, on a aussi un portrait très percutant et très puissant. On a ce couple au visage soucieux. Cette impression d'inquiétude, elle est flagrante, notamment dans le visage de l'homme. On discerne à peine ses yeux, tellement ils sont froncés. Et cette impression de visage sans yeux, elle est exacerbée par les sourcils qu'il a très touffus. Et on est donc face à l'inquiétude. Et pourtant, on n'est pas face à une image triste et désespérée, parce que le visage de cette femme est plein de force et plein de pugnacité. Et ça tempère cette impression première d'inquiétude. Autre artiste photographe, je laisse la place aux femmes aujourd'hui, c'est Bérénice Abbott, née en 1898, morte en 1991, et alors ça c'est un personnage totalement atypique. C'est une photographe, mais c'est aussi un inventeur. Elle est à l'origine de tout un tas de brevets pour garder en mémoire les inventions qu'elle a pu faire. Et c'est une artiste qui au départ se cherche. Elle entame des études de journalisme, puis elle abandonne, elle se frotte à la photographie, et en fait sa chance, c'est d'avoir un réseau. À New York, elle rencontre un des grands artistes de l'époque, Man Ray, et Man Ray croit en elle et lui dit « on se reverra ». Et effectivement, quelques années plus tard, Bérénice Abbott recroise le chemin de Man Ray à Paris, et Man Ray lui dit qu'il croit en elle et l'incite à fonder un atelier, un studio de photographie. Donc elle va commencer à faire tout un travail de photographie, et c'est à Paris qu'elle rencontre un artiste très très âgé, Eugène Alger. Alors Eugène Alger, très brièvement, c'est un photographe autodidacte, hein, il se met à la photographie sur le tard, qui va, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, se faire le témoin de la vie parisienne, se faire le témoin des petites échoppes appelées à disparaître avec les grands magasins, se fait le témoin des petits métiers parigots, et Alger a consigné cette vie parisienne dans des centaines de photographies qui auraient été promises à la ruine et à la disparition si Bérénice Abbott ne les avait pas gardées et archivées. Et en fait, aujourd'hui, à la BNF à Paris, on a tout un fonds Eugène Alger pharaonique et magnifique. Et tout ça, c'est grâce à l'action de cette femme qui s'était pris d'amitié pour ce vieil homme. Si je vous parle d'Alger, c'est pas par hasard, hein, c'est pas une digression surréaliste. C'est tout simplement parce que ce travail d'archivage, d'inventaire de la vie parisienne va beaucoup marquer Bérénice Abbott. Et lorsqu'elle revient à New York, elle est sidérée par tous les changements que connaît la ville et elle décide, à l'instar d'Alger, eh bien de faire un travail d'inventaire sur les changements que connaît la ville à l'époque. C'est un projet très vaste, très ambitieux, qui va être sponsorisé par le gouvernement. Le but, c'est de saisir toutes les métamorphoses de la ville de New York. Elle écrit « Le rythme de la métropole n'est celui ni de l'éternité, ni du temps qui passe, mais de l'instant qui disparaît. C'est ce qui confère à son enregistrement une valeur documentaire autant qu'artistique. Donc on saisit l'instant, certes, mais il ne faut pas croire qu'on est dans quelque chose de spontané et de vif, pas du tout. Toutes les photographies de Bérénice Sabot sont pensées, elles obéissent à tout un tas de protocoles, on s'intéresse à l'atmosphère, on s'intéresse à la météo, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'instantané, on est bel et bien dans une forme de préméditation. Ça, c'est un cliché intitulé « Vue de nuit », réalisé en 1932. Au début, on saisit mal le sujet, tellement on est ébloui par la mosaïque de lumière. Et puis, petit à petit, on a le graphisme des architectures qui s'imprègne sur la rétine et on a tout ce jeu d'horizontal et de vertical qui se croisent. Et finalement, on a un maillage lumineux, palpitant, qui retranscrit bien la fébrilité des nuits new-yorkaises. L'immensité de la ville, elle est aussi très, très flagrante dans cette photographie qui vous montre une gare. On a cette gare qui est énorme, hein, c'est une sorte de cathédrale métallique, de cocon de lumière. Et dans cette gare s'égrènent minuscules des voyageurs. Et c'est souvent ce qui frappe chez Abbott, c'est l'immensité de l'œuvre des hommes et paradoxalement le côté dérisoire et minuscule des hommes proprement dit. Ce côté dérisoire, on le retrouve ici, dans cette photographie qui est composée au cordeau. Hein. Il y a cette espèce de parallèle entre le mât et les cordages et tous les immeubles à l'arrière-plan. Donc la verticalité, elle est omniprésente. Et il y a ce contraste entre la grandeur de ce bateau, la grandeur des gratte-ciels new-yorkais et la petitesse et l'insignifiance des hommes qu'on reconnaît à peine dans la partie droite. Autre exemple, cette vue de Broadway réalisée en 1938. Donc là, on a une vue plongeante sur la verticalité des gratte-ciels qui s'enracinent. La verticalité, elle est omniprésente. Et puis au loin, en contrepoint, on a l'Hudson, à peine zébré par des bateaux, qui offre une horizontale pleine de calme, pleine de sérénité, qui vient un peu tempérer ce côté un peu violent, très viril des gratte-ciels. Et on retrouve la petitesse des hommes, leur aspect dérisoire dans ces minuscules petites voitures qui bataillent en contrebas. Walker Evans. Né en 1903, mort en 1975, venu à la photographie totalement par hasard. Au départ, il voulait être écrivain. Et puis bon, la carrière d'écrivain, ça paye pas. Et vu la crise économique persistante, il se décide de vivre de la photographie. Donc il va travailler beaucoup dans le sud des États-Unis, missionné par le gouvernement. Voilà, ça c'est une des photographies de Walker Evans, la photographie d'une famille dans l'Alabama. C'est emblématique des conditions de vie misérables des fermiers américains. Là on a cette famille qui est entassée dans un intérieur très modeste, pieds nus pour la plupart, à part cette grand-mère qui est mal chaussée. Et tout évoque la pauvreté, l'habillement, le fait qu'il soit parqué dans un espace minuscule, sale, décati. Et pour autant, c'est une vision très belle et pleine d'humanité. Ces gens-là sont fiers néanmoins et s'offrent dans toute leur dignité. C'est des clichés qui sont toujours très émouvants, les clichés de Walker Evans, parce que ce ne sont pas des clichés misérabilistes. Ça, c'est une des photographies les plus connues de Walker Evans, cette femme de fermier de l'Alabama. C'est une des œuvres les plus connues parce qu'elle est très iconique. On a ce visage émacié, au regard fixe et profond, qui nous embrase, qui nous obsède, et on est presque, effectivement, on est presque révérencieux, comme on pourrait l'être face à une icône. Alors, autre parcours atypique, celui d'Arthur Rothstein, qui est né en 1915, qui meurt en 1985. Et alors lui aussi, au départ, il n'est pas du tout photographe, il se destine à une carrière de médecin. Les études de médecine coûtent cher, crise économique, et il se dit, pourquoi pas vivre de mon hobby. Le hobby de l'époque, en l'occurrence, c'était la photographie. Et Rothstein, à l'instar de Walker Evans, va sillonner les États-Unis et va vouloir se faire le témoin des conditions de vie des fermiers américains. Mais autant on est dans quelque chose de très objectif chez Walker Evans, autant chez Arthur Rothstein, on est dans quelque chose de très onirique, de très poétique. Je m'explique. J'ai choisi deux clichés qui sont, à mon sens, emblématiques de son œuvre. Ce fermier, et on a une composition ici très angoissante. Le vide prédomine. La composition, on pourrait la diviser symétriquement en deux parties. D'un côté, le vide du ciel, et de l'autre, le vide et l'aridité de ce sol sableux. Ce sol sableux stérile, où rien ne pousse, où tout est à refaire, indéfiniment. Et il y a quelque chose de très vain, de très désespérant dans le geste de cet homme qui, malgré les tempêtes de sable qui s'abattent dans l'Oklahoma, continue à bâtir des enclos pour abriter ses animaux. Et je parlais tout à l'heure du côté onirique et du côté mythique des œuvres de Rothstein. Bah là, on en a un bon exemple dans ce fermier et ses deux fils qui bataillent contre une tempête de sable. C'est une vision qui, là encore, montre l'inanité des entreprises humaines face à la toute-puissance de la nature, puisque ces personnages sont chassés par cette tempête de sable. On touche presque au mythe biblique ici, et il y a quelque chose de très onirique, de très poétique, avec ce côté un peu fumé de la photographie. En fait, c'est une tempête de sable, donc forcément les images sont plus très nettes. Et cette tempête de sable, il y a quelque chose de... Il y a un goût de malédiction quelque part, puisque ça n'amène que le chaos et le désordre. La photographie a été convoquée donc pour attester des difficultés contemporaines, mais je ne pouvais pas vous parler de la mairie de la dépression sans vous parler de la peinture et notamment du muralisme. J'ai taillé dans le gras, mais je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, ça aurait été un scandale. La peinture, elle n'est pas en reste, et elle va attester également des difficultés contemporaines, et la peinture américaine des années 20, des années 30 va être influencée par le muralisme mexicain. Le muralisme mexicain, qu'est-ce que c'est ? Au début du XXe siècle, en 1910 plus exactement, il y a une rénovation de l'art mexicain qui suit un peu les soubresauts de l'époque. Il y a une révolution mexicaine en 1910, il y a un propriétaire terrien qui s'insurge contre la politique de l'époque. Le chef de l'État de l'époque était au pouvoir depuis 40 ans, ça vous laisse rêveur face au côté démocratique du Mexique du début du XXe siècle. Et donc il y a une grande révolution politique qui chasse ce dictateur. Et parallèlement à cette révolution politique, il y a toute une rénovation de l'art mexicain. Et les artistes mexicains, le grand artiste mexicain de l'époque, c'est Diego Rivera. Et Diego Rivera est un artiste qui, avec ses collègues mexicains, va vouloir s'émanciper des influences européennes et va vouloir promouvoir l'art mexicain et les racines indiennes du Mexique. Et donc, c'est des artistes fantastiques parce que ils vont redonner espoir, redonner fierté au peuple mexicain en créant des compositions immenses et gigantesques qu'on appelle donc le muralisme parce que ces compositions sont peintes sur des murs, tout simplement. Ces artistes mexicains, ce sont des artistes qui vont travailler aux États-Unis. Diego Rivera, notamment, va travailler aux États-Unis, à Détroit, notamment. Et on va le voir ici, normalement. Je suis désolée, j'ai plusieurs clés USB. Et voilà, pour un esprit faible comme moi, ce n'est pas quelque chose de... Non, c'est pas le bon non plus. Oh, j'ai mon ordinateur, parce que là, sans les images, c'est vraiment moche, quoi. Il est là. Ouais, j'avais anticipé ma... Bref, on va pas dire le mot, mais bon, bref. Donc, Diego Rivera va travailler aux États-Unis, à Détroit notamment, et va influencer les artistes américains. Il les influence parce que c'est un artiste qui fait à peu près 2 mètres sur 2 mètres, donc c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, d'extrêmement proéminent, et c'est un artiste qui va également influencer les artistes américains parce que il collabore avec eux. Il y a tout un tas d'artistes américains qui vont seconder Diego Rivera dans les peintures murales qu'il réalise aux États-Unis. Et je ne peux pas évoquer par manque de temps tous les artistes muralistes américains, mais je voulais me concentrer sur un artiste en particulier qui s'appelle Thomas Hart Benton. Et Thomas Hart Benton, il a un style, vous allez le voir, très, très classique, très traditionnel. C'est un peintre régionaliste, c'est-à-dire que le but pour Benton, c'est de peindre l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, la vraie Amérique. Et Benton va être le chantre de cette Amérique rurale, de cette Amérique profonde, qui donne toute sa force, toute sa sève à l'Amérique. Et il va réaliser un certain nombre de peintures extrêmement classiques. Et on a du mal à croire que Benton fut lié à un des grands artistes abstraits américains, Jackson Pollock. Jackson Pollock, si vous connaissez, c'est un artiste qui fait tout un travail de chorégraphie gestuelle, qui peint par giclure de couleurs, c'est l'expressionnisme abstrait, et Jackson Pollock, paradoxalement, a eu un maître extrêmement traditionnaliste comme Benton. C'est bon, alors j'ai Diego Rivera, avec sa bonne amie Frida Kahlo, ça a été la grande histoire d'amour du début du XXe siècle. Ça marche ? Bon, Diego Rivera. Diego Rivera avec Frida Kahlo. Alors c'était un couple totalement atypique parce que donc lui il était immense, hein. J'exagère quand je dis 2 mètres sur 2 mètres, mais je suis quand même pas très loin de la vérité. Et elle, elle était toute chétive et puis toute maladive, donc c'était vraiment un couple assez emblématique. Diego Rivera donc travaille aux États-Unis. Donc là je vous ai choisi une de ses œuvres les plus célèbres, une grande peinture murale qui représente un district Détroit. Et voilà, on est face à une célébration de la modernité et du travail des travailleurs. Diego Rivera, très politisé, donc forcément ses tableaux, enfin ses œuvres, ses fresques, sont des célébrations de la masse populaire, des ouvriers. Thomas Hart Benton, le voici. Et donc, je vous le disais, il a un style extrêmement classique. On reconnaît les œuvres de Benton parce qu'elles ont un côté sinueux. Les personnages sont immenses, souvent disproportionnés, et on a l'impression qu'ils sont tout en courbe. Et ça, c'est vraiment très reconnaissable. Donc, une des œuvres prises au hasard pour vous montrer le côté très classique, Le Seigneur et mon berger, peinte en 1926. On a ce vieux couple, et derrière l'homme, on a ce petit panneau, The Lord is my shepherd. Définitivement mon accent est catastrophique, qui donne son nom au tableau. Et alors, donc je disais que Benton va être influencé par les muralistes mexicains, et Benton va être un des artistes missionnés par les États-Unis pour des grands programmes de décoration. On en a un bon exemple ici, dans l'Indiana. C'est une commande qui avait été faite pour décorer le pavillon de l'Indiana lors d'une foire industrielle. Et Benton va sillonner tout l'État à la manière des photographes pour rencontrer les habitants de l'État d'Indiana, pour absorber les rencontres, pour absorber les mentalités et pour témoigner de toute la verve, de toute la richesse de cet état. On n'est pas du tout là dans une peinture misérabiliste, hein. On est dans quelque chose qui célèbre, chante la réalité, la transcende quelque part pour en tirer le meilleur. Et bon, l'histoire de l'Indiana, c'est un état au départ très, très agricole et qui va se transformer en quelques décennies en un état industriel puissant. Et toutes les peintures qu'il réalise vont chanter justement cette modernisation de l'état. L'autre grand projet de Benton, c'est celui qu'il réalise dans le Missouri. Il est originaire du Missouri, en fait, Benton. Et on a là une célébration de cet état du Missouri, et plus précisément des habitants qui travaillent anonymement à la vivacité, à la vigueur de cet état. Et là encore, hein, Benton fait toute une enquête sociologique, va à la rencontre des gens pour s'imprégner de leur métier, de leur mode de vie. Donc on le voit, qu'ils soient peintres ou photographes, hein, les artistes sont vraiment dans l'empathie. Ils sont du côté de la population. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai introduit le sujet, on n'est pas du tout dans l'image de cet artiste un peu à part, un peu ailleurs, au-dessus de la société, une sorte d'entité impénétrable. On est vraiment face à un homme de chair et de sang qui va au charbon et qui va à la rencontre des populations. Alors, toutes les peintures là du Missouri racontent en fait toute l'histoire de cet État, un État qui plonge ses racines très loin dans l'histoire. Hein. Il y a des références aux Indiens, il y a des références à la France, hein, puisque ça a été un État qui a appartenu à la France. On a tendance à l'oublier, mais la France s'était taillée la part du lion en Amérique et possédait un certain nombre de territoires qu'elle va perdre au XVIIe et XVIIIe siècle, suite à des conflits, à des traités de paix, mais elle avait un grand nombre de territoires. Voilà, j'en arrive à la conclusion, vous allez pouvoir bientôt partir. Le New Deal n'a pas mis fin à la crise économique, mais il a limité les dégâts. Il a permis une forme d'interventionnisme de l'État, ça a permis de redonner confiance à la population, De fait, cette population, elle a été tout entière fédérée derrière Roosevelt. D'ailleurs, il sera réélu 2 fois. Donc, c'est vous dire l'extrême popularité de cet homme. Dans ce contexte de crise, Roosevelt, en innovant et en popularisant cette formule du New Deal, va véritablement rendre sa cohésion à la société américaine. Donc on a fait tout un périple à travers l'Allemagne et les États-Unis. On a vu comment, dans un contexte de crise, les artistes ont malgré tout eu la force, la vigueur de se déployer et de reproduire, de transcender le réel. L'art est protéiforme, hein, qu'il soit encouragé aux États-Unis ou au contraire qu'il soit pourchassé, censuré en Allemagne. L'art s'impose. Il s'ajuste pour être une voie de l'altérité, pour laisser entrevoir le champ des possibles, pour redonner l'espoir aussi d'une certaine façon. Et finalement, qu'il atteste, qu'il dénonce, qu'il réinvente, l'art est partout présent. C'est vraiment, et je voulais terminer là-dessus, la force vive qui nous montre la voie des possibles et qui nous montre le chemin de la résistance. Voilà.